Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Associativement Vôtre sur Radio Ems, l'émission qui donne la parole aux associations de l'Est parisien tous les jeudis de 19h à 20h. Dans cette émission, nous recevons des acteurs du monde associatif de l'Est parisien pour nous parler de leur histoire, de leurs activités et du bénévolat. Et vous pouvez également nous suivre en vidéo depuis notre page Facebook et on a en plus... On est filmé pour un documentaire qui sortira dans plusieurs mois, voire un peu plus. On est filmé par Marie-Élise, à qui on dit bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Joss de l'association La Sauge à Aubervilliers, ainsi que Frédéric de l'association Le Sens de l'Humus à Montreuil. Bonjour. Bonsoir à vous deux et merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour commencer, quelles sont vos responsabilités respectives au sein de votre association ? Joss, on commence par Joss.
Alors moi je suis salarié à l'association, je m'occupe de notre programme de bénévolat et de toutes les animations avec les enfants.
D'accord. Frédéric ?
Je suis coordinateur de l'association.
Voilà, Le Sens de l'Humus à Montreuil.
Le Sens de l'Humus à Montreuil.
Très bien, donc... On va présenter le thème, on se doute un petit peu, la sauge, le sens de l'humus. Donc dans cette émission, nous allons parler de vos activités et puis on va échanger sur deux moments, d'accord ? Deux moments où on échangera tous ensemble, agrémentés de deux pauses musicales que vous avez choisies et on expliquera tout à l'heure vos choix. Donc ce soir, nous n'aurons pas la joie d'entendre la belle voix de ma co-animatrice Caroline, qui la pauvre est souffrante, peut-être qu'elle nous écoute, donc on lui dit bonsoir Caroline. On pense bien à elle, on lui souhaite un bon rétablissement, mais heureusement, mon très cher David est là pour la régie. Bonsoir David.
Bonsoir à tous.
Le thème donc de ce soir, c'est l'agriculture urbaine que nous allons aborder tout de suite avec notre première partie de questions avec les associations La Sauge et Le Sens de l'Humus. Alors, première question. Quelles sont les valeurs que vos associations soutiennent de façon primordiale et qu'apporte-t-elle votre association sur le territoire de l'Est parisien ? Frédéric, pour le sens de l'humus.
Ok. Alors, les valeurs. Donc, l'association s'est construite sur des valeurs de décroissance. Le petit jardin qui a initié l'association était porté par des gens qui voulaient mettre en pratique leurs idées autour de la décroissance. Et puis... autour d'une agriculture alternative aussi, avec la permaculture notamment, qu'on a un peu initié en Île-de-France, vu qu'on a commencé en 2006 et qu'il n'y avait pas grand monde qui parlait de ce genre de choses à l'époque. Et dans la permaculture, il y a des principes qui sont prendre soin des sols, prendre soin... J'espère que j'ai pas dire n'importe quoi. Prendre soin des humains, prendre soin de la biodiversité, prendre soin voilà, et partager, qui sont des valeurs assez essentielles. À cela, on rajoute une dimension, on va dire un petit peu plus politique, qui est autour de l'autogestion, voire. Un grand mot de l'anarchie, mais voilà, on va mettre des guillemets pour pas être trop fort.
D'accord, mais bon, on comprend. L'autogestion, voilà. Déjà, voilà. C'est déjà quelque chose de très fort. Ouais. Joss, pour la sauge, donc c'est quoi les valeurs que vous soutenez le plus, quoi, vraiment, qui est le sens de l'association ?
Oui, pour nous, nos valeurs, je dirais que c'est vraiment le côté d'être inclusif et solidaire. Nous on a été construit du coup en 2015 avec un peu comme objectif que tout le monde puisse jardiner au moins 2 heures par semaine et quand on dit ça c'est tout le monde surtout dans le 9-3 où c'est un milieu un peu, enfin beaucoup urbanisé où il n'y a pas trop d'espace vert du coup nous on a l'objectif du coup que tout le monde puisse toucher un peu la terre, de se reconnecter avec le monde naturel, le vivant et de pouvoir aussi un peu cultiver sa petite parcelle de terre
D'accord, donc ma deuxième question qui était, qu'apporte-t-elle sur le territoire de l'Est parisien, c'est...
Ah bah du coup j'y suis directement là, oui.
Ouais, c'est d'amener les gens à avoir les mains dans la terre,
c'est
quoi.
Ça, c'est
à cultiver...
C'est d'une façon de pouvoir leur offrir un espace dehors, proche de la nature, et aussi de pouvoir un peu les sensibiliser... pas forcément sensibiliser, mais juste de reconnecter les personnes avec la nature, la terre, les vers de terre et toutes les petites bestioles. D'accord. Qui sont dedans.
Un retour à la nature dans un milieu urbain. Frédéric, il y a un peu de ça avec le sens de l'humus aussi ?
Oui, oui, bien sûr. On est surtout sur pas mal de volets autour de l'écologie, de l'agriculture urbaine, le compostage, l'éducation à l'environnement. L'accueil de personnes un peu mis à l'écart de la société, pour ne pas parler d'insertion, parce que j'aime pas trop ce mot. Et puis la construction de potagers aussi, la mise en place de potagers en pied d'immeuble, des formations autour de la permaculture.
Tout un tas de
choses qu'on essaye de mettre en place dans les villes de l'Est parisien, autour de Montreuil.
D'accord. On en parlera plus en détail tout à l'heure quand on fera un zoom sur vos activités. Alors depuis quand elles existent, vos associations? Alors, tu l'as dit tout à l'heure,
j'ai spoilé un petit peu.
2015, c'est ça,
c'est ça.
Mais comment elle a été créée? Voilà, c'était quoi l'envie? Il y avait combien de personnes au départ?
En fait, c'était un bande de copains et copines qui avaient l'idée de se reconnecter avec un peu la nature. Et du coup, ils ont... tenter plusieurs choses, de commencer à jardiner en bas des meubles, végétaliser un peu les cours, des choses comme ça, un peu de manière informelle, on va dire. Et du coup, ça s'est fait pendant quelques années. Il y a eu un petit projet où, du coup, moi, je faisais pas encore partie de l'association, mais ceux qui étaient là, ils cultivaient des pleurotes, donc des champignons, et ils faisaient des petits kebabs aux pleurotes. On testait plusieurs choses, en fait. L'association testait plusieurs choses. Et le grand changement, c'était quand on a gagné un appel à projet pour occuper un espace à Bobigny. L'idée de le transformer en ferme urbaine.
D'accord.
Et là, l'association a...
L'espace. Alors, un espace qui fait combien de mètres carrés?
Alors, mètres carrés, on pourrait peut-être parler d'hectares, oui. Je pense qu'il fait 2000 mètres carrés. Mais je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, c'est un espace relativement grand, sur une grande dalle en béton. Donc, il faut imaginer, les personnes sont arrivées, il y avait une grande dalle en béton avec quelques buissons qui tirent un peu la tronche, quoi. Et le projet, c'était de faire une ferme urbaine mobile, parce qu'on était censé être là que pendant un an. Du coup, il avait l'idée de construire des bacs, des choses comme ça, sur des petites rouettes pour pouvoir le déplacer à la fin de l'année. Et en fait, le projet a pu perdurer un petit peu dans le temps. Du coup, les aménagements ont été faits, et des bacs ont été construits, une serre a été mise en place.
D'accord.
Et voilà, l'association est un peu...
Donc ça a démarré une bande de copains. Allez, on va planter un peu partout.
Voilà.
Au lieu qu'il n'y ait que de l'herbe, on va
mettre un peu des fleurs, des potagères.
D'accord. C'est une belle idée. Le sens de l'humus, comment ça a démarré?
C'était pas moi qui étais là à l'origine, mais ça a démarré un peu pareil. C'est-à-dire que il y avait un couple et puis des copains sur, comme je disais tout à l'heure, la question des décroissances, d'anti-pub aussi. Il y a pas mal de gens qui étaient sensibles. Bon, les gens de la décroissance sont aussi sensibles à ces questions de lutte contre l'envahissement publicitaire. Et donc, ils se sont réunis, il y avait un appel à projet autour de la proposition d'occuper des parcelles dans les murs à pêche, puisque les murs à pêche devaient être urbanisés, et au final, la ville a fini par céder et laisser la place aux habitants, aux associations. Et il y a eu des projets, il y a eu un projet auparavant qui n'a pas tenu, et du coup, ça nous a laissé la place pour une toute petite parcelle de 600 mètres carrés qui existe toujours, et qui est à l'origine de l'association, mais qui est plutôt en mode jardin partagé actuellement, avec quelques personnes, quelques bénévoles. Et là-dessus, elle s'est donc créée en 2006. Moi, je suis arrivé en 2008. Et on, sur un projet de création de chantier d'insertion, moi j'avais un peu de formation autour de ces questions-là à la base. On n'a pas créé de chantier d'insertion, peut-être un peu long, on n'a pas créé de chantier d'insertion, mais on a créé un jardin solidaire en 2012 dans une autre parcelle qui est beaucoup plus grande, qui fait 6-7 000 mètres carrés, de l'autre côté du site des murs, enfin de l'autre côté du pâté de maison des murs à pêche, côté de la rue Saint-Antoine, et du coup, bah là, ça s'est développé, compostage, question sur l'entretien de ce site immense, et puis lien avec l'ancienne propriétaire du lieu, qui est la dernière horticultrice de Montreuil, Geneviève Pouplier, dont on a donné le nom au jardin. Jardin
Poupli, voilà. Oui, exactement. Voilà. Les Montreuillois qui connaissent les murs à pêche connaissent bien le jardin Pouplier. Alors, on va zoomer un petit peu sur le fonctionnement de vos associations, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi dans Associativement Vôtre, c'est aussi le bénévolat. Et on essaye un peu de faire d'éducation populaire aussi, d'informer les auditrices et les auditeurs sur le fonctionnement des associations. Combien y a-t-il d'adhérents dans vos associations ? Alors, adhérents, salariés
Du coup, nous, on est...
Donc, JOS pour la SAUGE.
Pour la SAUGE, du coup, il y a eu le choix de vouloir que les personnes qui travaillent à la SAUGE soient salariées. Ouais. Du coup, d'avoir des personnes permanentes en contrat. Et après, il y a toute une équipe d'alternants, stagiaires et services civiques. Et après, du coup, il y a évidemment, on compte sur nos bénévoles. On peut en parler peut-être un petit peu sur les modalités de bénévolat, ou en tout cas, comment les gens ils peuvent s'engager à la SAUGE. Et après, en termes d'adhérents, en fait, toutes les personnes qui passent sur nos fermes, à part les groupes scolaires ou des choses comme ça, donc les bénévoles qui viennent nous donner un coup de main, mais aussi les personnes qui viennent pour nos événements, puisqu'on fait des événements un peu festifs aussi, ils doivent adhérer à la SAUGE, parce que voilà, il faut adhérer à nos valeurs. Et du coup, en termes d'adhérents, de personnes qui s'adhèrent, on peut monter à... Je pense qu'on est à 20 ou 30 000 personnes. On accueille beaucoup de personnes sur une année. Mais bon, c'est pas forcément des personnes qui sont dans l'association. Mais
oui, ils adhèrent, c'est plus un soutien financier part. Et en termes de bénévoles, ça peut monter à combien ?
En termes de bénévoles, alors,
Sur l'année,
on a de nombre de personnes qui passent. On est sur quelques centaines de personnes qui passent, qui découvrent, qui font quelques créneaux bénévoles. D'accord. Et après, on a un bon pool de bénévoles récurrents, semi-récurrents.
D'accord. Mais bon, il y a un noyau de salariés. Combien de salariés ?
Alors, on est une petite dizaine de salariés.
D'accord.
Voilà, répartis sur trois fermiers en peine.
Ouais, c'est quand même pas... Enfin, vous avez beaucoup de superficie, quoi, aussi.
Oui, il faut s'occuper. On a plusieurs pôles, plusieurs projets, du coup...
Frédéric, le sens de l'humus, alors, combien d'adhérents, de bénévoles dans l'association ?
Bah, nous, on est sur une échelle un peu moindre. On a environ 200 adhérents, 200-300 adhérents. Et puis, au niveau des bénévoles, on va dire 50-60 à l'année, en comptant les gens qui s'impliquent sur le jardin solidaire. Voilà. Donc, voilà, en gros. Et on est effectivement à la recherche de plus de bénévoles. Le Covid nous a un peu rompu. Peut-être en parler.
C'était ma question suivante. Vas-y.
D'accord, ouais, ça a un peu stoppé l'élan sur.
Il y a eu moins, ça a réduit le nombre de bénévoles.
Oui, ça a réduit. On a arrêté pas mal l'activité. Ça a été vraiment très 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 ralenti. Et puis on avait du chômage partiel. On est monté jusqu'à 10, 11, 12 salariés. Et actuellement, on a restreint. Parce que, voilà, on est à 6.
D'accord.
Voilà, mais une équipe plus soudée, plus solide.
D'accord. Jos, on n'en a pas parlé. Donc vous avez été créé avant la crise du Covid. Est-ce que ça vous a impacté aussi en termes de bénévoles ?
Du coup, moi, j'étais pas encore à l'association quand il y a eu la crise Covid. Par contre, les retours que j'ai eu des personnes qui viennent après, du coup, la crise Covid, c'était, en tout cas, même les personnes qui venaient pendant et qu'on pouvait être un peu dehors, mais pas trop, c'était au moins qu'en tant que bénévole, ils pouvaient profiter d'être, de retrouver un endroit dehors, d'avoir de la place. Mais après, en termes d'impact, je pourrais pas dire non.
D'accord. un peu difficile des fois à savoir, c'est clair. Donc l'évolution du Covid, en tout cas, voilà, le sens de l'UMIS, ça, ça vous a pas mal impacté, comme beaucoup d'associations d'ailleurs, hein, depuis depuis les, nos 6 émissions précédentes, à chaque fois ça a été quelque chose qui nous a été dit. À qui s'adresse votre association et quelles sont les activités que vous organisez? Donc là, on a commencé à un peu en parler des activités, mais là, on peut aller plus en détail. Frédéric, pour le sens de l'humus, donc à qui ça s'adresse le sens de l'humus? Bah, et puis c'est quoi que les bon voilà quelles sont les activités que vous organisez pour ouais. les gens à qui ça s'adresse?
Bah, comme je disais tout à l'heure, il y a une multiplicité d'activités et il y a vraiment un accueil quasiment de tout public, des enfants aux jeunes, si on peut dire, et puis aux adultes, aux personnes âgées qui ont envie de faire du jardinage. Enfin,
donc c'est vraiment tout public.
Il y a vraiment une ouverture en fonction aussi de ce qu'on fait. On peut faire, enfin, en fonction des besoins, de la demande, éducation, l'environnement. On en a fait même avec les crèches. Juste à la crèche Maman Poule notamment, mais il y en a eu d'autres.
Ben vous avez fait quoi avec les crèches?
Ben des petites activités toutes simples sur les 5 sens, notamment les odeurs, le toucher, enfin il y a plein de petites choses toutes simples, toutes basiques à faire
pour faire découvrir la nature,
toucher la terre, mettre un ver de terre dans sa main, c'est ce truc super important parce que les mômes après ils ont peur de toutes les bêtes, donc il faut les habituer à avoir un lien étroit avec la nature, avec les choses qui a priori peuvent dégoûter, tout ça, mais non, il n'y a rien de méchant, tout ça, même les araignées ne piquent pas, la plupart, enfin quasiment toutes ne piquent pas en Île-de-France. Oui, les enfants, les adultes, on fait des ateliers d'alimentation anti-gaspi ou de travailler sur les questions nutritionnelles aussi. Là, on va travailler sur le chèque alimentaire, j'espère, ça devrait être validé par le département. Faire des ateliers avec des gens qui bénéficient d'un soutien sur financier pour l'alimentation. Donc un volet important, puis je vous dis, la permaculture, on a fait pas mal de formations sur le potager sans travail du sol. Après, c'est des publics plus impliqués sur les questions, sur des questions techniques, un peu de pointe sur l'agriculture alternative, qui a été un peu à l'origine aussi de notre association. C'est un peu là que ça a démarré aussi avec des projets de ce type. Comme je disais, la permaculture bio-intensive, l'épandage de broya aussi, qui n'existait pas trop à l'époque dans les villes.
Ouais, ça vous le développez, ça?
Ah bah on continue, mais là ça devient commun, c'est partout. Enfin, la permaculture, bon c'est plus compliqué, mais les choses basiques comme le broyat, il y en a partout dans les villes maintenant. Alors qu'au début, en 2006, on n'en voyait pas trop. Alors que moi, les végétaux, ils ont besoin de, ils ont besoin d'un support végétal pour, enfin d'être protégés aussi, les sols doivent être couverts, donc c'est important de dépendre de ce truc. Voilà, c'est anecdotique maintenant, presque. Voilà, quoi d'autre? Toutes nos activités, le compostage, on a une grosse activité de compostage qui s'est un petit peu réduite avec un changement dans les modalités de financement, mais voilà, on a installé de nombreux, on a été les premiers, enfin je crois les premiers en Île-de-France à installer le composteur collectif de quartier du Square République à Montreuil. Et puis après, ça s'est développé.
Ouais, il y en a plusieurs qui sont développés avec Est Ensemble, du coup.
Avec Est Ensemble, ouais, qui a soutenu.
Il y en a combien aujourd'hui sur Montreuil?
Sur Montreuil, il y en a une vingtaine, je crois. Ouais, une petite vingtaine, mais il y a une volonté de développer encore. Après, il y a la concurrence maintenant de la collecte des biodéchets, donc on va voir comment tout ça s'articule. Il y a une volonté de même d'Est Ensemble de vouloir de continuer la diffusion, enfin le développement de ces sites de compostage de quartier, parce que ça évite les camions, ça évite tout un tas de choses, des déplacements, puis on peut créer un sol riche sur place, hein, un beau compost qui peut profiter au jardin partagé, etc. Donc plus un volet, je disais, d'accueil de personnes. Chômage de longue durée, bénéficiaires du RSA, etc., qui viennent depuis 2012, c'est là qu'on a créé notre jardin solidaire, qui viennent en continu, le mardi, mercredi, jeudi matin, avec des bénévoles, pour entretenir ce bel endroit, qui est un jardin remarquable quand même, qui est classé à plusieurs titres, par la région, par l'État, sur... j'oublie toujours le type de classement... classement reconnu pour les jardins, voilà.
Oui, ce qui est bien. Donc, du coup, ça permet de se rassurer que il y aura rien d'autre dessus.
A priori, non, mais ça construit tout autour, quoi. Ouais, là, on a le garage du tram à 20 mètres.
Oui, c'est vrai.
C'est un peu une catastrophe. Mais bon, voilà. Puis tout autour, puis ça va se gentrifier à mort avec l'arrivée du tram. Ça, enfin voilà. Nous, on est un petit. Un petit village retranché de nature.
Un îlot de nature plein milieu de l'urbanisme.
Oui, c'est ça. En plein milieu du béton.
D'accord. Je vais revenir tout à l'heure sur les activités, parce qu'il y en a quelques-unes que je voudrais sur lesquelles on zoome un petit peu, mais on va aller retrouver Joss de la Sauge. Vos activités, alors qu'est-ce que vous faites comme activité pour faire venir les gens? Vous nous disiez tout à l'heure que voilà, il y a des gens qui viennent, le recontact à la nature. Comment vous faites pour les faire venir, ces gens-là? Et puis quand ils sont là, c'est quoi l'activité?
Alors on fait pas mal de choses. Du coup, sur nos fermes urbaines, du coup, on ouvre des créneaux bénévoles pour que les gens ils viennent jardiner avec nous, viennent entretenir la ferme. On a toute une dimension productive aussi. Du coup, à la prairie du canal, on a une grande pépinière où on produit. Des fleurs, des potagères, des aromatiques, des petits fruits, des choses comme ça. Et du coup, les gens ils viennent nous aider pour produire ces plantes-là. Et après, en dehors des fermes, on a tout un projet. En fait, le projet a été aussi créé avec l'idée de vouloir monter des jardins partagés avec la communauté pour, avec toujours cette idée de rapprocher les gens avec la nature, reconnecter les gens avec la nature. Et du coup, on a tout un programme maintenant qui s'appelle la Fabrique des jardiniers et jardinières, avec l'idée qu'on accompagne ces jardins partagés, soit qui sont où il n'y a rien pour l'instant, et du coup, il faut tout construire, beaucoup avec la concertation citoyenne, la mobilisation citoyenne, et après, on leur accompagne dans ce processus de création de jardins partagés. Et pareil, là-dedans, ils suivent une formation pendant toute l'année, à partir de mars, ça a commencé la semaine dernière, jusqu'en octobre. Dans un sens de pouvoir apprendre un peu les techniques de jardinier, mais aussi tout le truc de le travail de collectif, de comment on s'organise, comment on peut peut-être financer notre jardin pour avoir un peu de l'aide de l'État ou l'aide de l'Est Ensemble, par exemple. Du coup, on a tout ça, un programme avec l'accompagnement de jardins partagés en dehors de nos fermes. Et après, on travaille avec les écoles, on travaille avec les centres de loisirs.
Alors, vous travaillez avec les écoles, vous faites quoi avec les écoles?
Du coup, on a un programme pédagogique. En fait, on a, sur l'année scolaire, on a des animations pour, avec l'idée que, du coup, les reconnectent avec la nature, pour que on les sensibilise à la biodiversité, aux déchets, des choses comme ça. Du coup, on a tout un programme sur l'année scolaire pour suivre ça. Du coup, on va dans quelques écoles pour ça. On les aide à entretenir des espaces de jardin. Parce que souvent, les écoles, maintenant, ils ont des petits espaces, des carrés pour jardiner, mais souvent, les profs, ils se sentent pas... à l'aise pour aller au jardin avec les enfants.
Du coup, il y a une accompagnement, il y a une petite formation des enseignants.
Voilà, il y a une petite formation avec les enseignants. On met toutes nos ressources en ligne pour que ça soit accessible pour eux, pour qu'ils se sentent en fait confiants. Nous, on veut que les enfants puissent aller jardiner. Nous, on y va et on jardine avec eux. Mais l'idée, c'est que les profs aussi, ils peuvent aller jardiner avec eux.
Ok, très bien. On va passer. On a fini la première partie de débat, mais on va continuer tout à l'heure. On va passer à une pause musicale. Première pause musicale qui a été choisie par vous, Joss, de la Sauge. Donc le titre, c'est Cabeza de Hautboy. Alors, pourquoi ce titre ?
Alors, du coup, quand on m'a dit qu'on allait écouter une musique aujourd'hui à la radio, du coup, j'en ai parlé avec mes collègues. Et ce son-là, il est sorti parce qu'en fait, c'est un artiste, un rappeur, mm-hmm. qui a tourné un clip à la prairie du canal, donc sur notre ferme, il y a quelques années. Et du coup, on a trouvé ça chouette de mettre ça à la radio. Et en plus, nous, c'est un son qu'on écoute souvent en train de jardiner.
Voilà. Vous êtes en train de jardiner.
Et je trouve que c'est assez cool comme ce que ça représente, parce qu'on est une ferme urbaine, donc on est proche de la nature, mais on est quand même entouré de villes, de béton.
Ouais.
Et on est aussi une équipe assez jeune. Du coup, ça montre que juste parce qu'on jardine, on ne peut pas écouter du rap.
Bien sûr. Et ben, on va écouter donc Cabeza de Hautboy, qui a été sélectionné par l'équipe de La Sauge.
Radio Ems, l'essentiel de la musique.
Ils ont grave le seum. Posé, je bats mon caprice. Une vie pas très saine. Je veux pas voir ma seule à rétrécir. Donc les manches, j'ai dû retrousser. Elle veut l'anneau, mais je suis pas pressé. Là, je suis pété sous. Puis l'on qui te fait tousser. Elle veut quoi la selle? Nouveau YSL, je lui dis fais des sous. Non mais j'hallucine, on n'est pas tout seul dans ma cabeça. Toutes les positions, dans de bonnes conditions. Toutes les positions, j'ai pas te faire rendre des sang. Ils ont mort, je vois tout scablé. J'ai pas le time, faut mes housses cabron. Gucci Fanny et des bijoux qui brillent. Elle a wallou mais je la vois scambrer. Ils ont mort, je vois tout scablé. J'ai pas le time, faut mes housses cabron. Gucci Fanny et des bijoux qui brillent. À la wallo, mais je la vois scombrer. Là, j'suis pété, pas sous pêche-tard, mais sous pétou toute l'année. V'là les pétards dans la deux bois, mais j'veux pas rester toute la nuit. Tu l'as touché, bah tu lâché. J'prends que le cash, j'prends pas l'échec. Elle et moi après dans la chambre. Elle et moi, t'elle a des papillons dans la chatte. Ça coupe le toucher à la machette. Dans le VIP, sous mes lunettes, j'suis arraché. Et le videur me suit, j'fais mon hashish. Me fais voyager, j'mets la cape et j'prends mon cachet, viens, on s'arrache. Ils ont grave le seum. Posé, j'bats mon cabri saine. Une vie pas très saine. J'veux pas vraiment sur la réussite. Ils ont mort, je vois tout scablé. J'ai pas le time, faut mes housses cabron. Gucci Fanny et des bijoux qui brillent. Elle a wallou, mais j'avance comblé. Ils ont mort, je vois tout scablé. J'ai pas le time, faut mes housses cabron. Gucci Fanny et des bijoux qui brillent. Elle a wallou, mais j'avance comblé. Là j'suis pété, pas sous pêche-tard, mais sous pétou toute l'année. V'là les pétards dans la deux bois, mais j'veux pas rester toute la nuit. Ils ont grave le sein, mais si j'vois mon cabri saine. Une vie pas très saine, j'veux pas vraiment sur la vraie saine.
Donc c'était donc notre première pause musicale. Vous êtes toujours dans Associativement Vôtre, la 7e émission. Et donc c'était Cabeza de Hautboy qui a été choisi par l'équipe de La Sauge, donc l'association La Sauge de Aubervilliers. Donc tout de suite, nous passons à notre seconde partie d'échange avec nos invités, donc Joss de l'association La Sauge et Frédéric de l'association Le Sens de l'Humus à Montreuil. Je reviens vers toi, Frédéric. Donc, le sens de l'humus à Montreuil. Sur les activités, on va continuer un peu sur les activités parce que vous avez quand même les uns et les autres, voilà, pas mal d'activités. Est-ce que vous faites, alors tu nous as dit, il y a des choses qui se font avec les crèches, mais avec d'autres écoles, il y a des choses qui se font avec d'autres écoles en termes d'activités.
Ah oui, bien sûr. Non, c'était juste un exemple, une partie, parce que là, on est avec des collèges, on est avec des écoles primaires, on travaille avec la ville de Montreuil, avec la ville de Noisy-le-Sec aussi. On est beaucoup impliqués sur le primaire, maternel, primaire, voilà. Mmh. Et puis collège aussi avec le département, ponctuellement le lycée aussi. Mais il y a un volet large. On a accueilli dernièrement hier même. des étudiants sur le volet plutôt design, alimentation, enfin des choses comme ça.
D'accord. Donc c'est très large.
Et donc avec découverte de la nature, de la faune, de la flore. Mon collègue très spécialisé sur les oiseaux. Il connaît très bien en ornithologie. On construit des nichoirs aussi avec les écoles, plein d'activités autour de la découverte de la nature, des plants, des semences, un panel large, quoi.
Du coup, vous avez des projets bien précis quand les enseignants vous contactent pour faire quelque chose avec leur classe. C'est eux qui ont l'idée de départ, ils ont une idée précise ou c'est vous qui proposez quelque chose?
Les deux. On construit avec eux quand ils ont une demande. Ça peut être dans les écoles ou ça peut être sur notre jardin. Notre jardin est... On essaye de le privilégier parce que c'est un lieu un peu de référence au niveau pédagogique et de nature, entre guillemets, de lieux où on peut effectivement découvrir des choses. Il y a une large activité possible sur le site, quoi.
Et puis une histoire
de Murapèche.
C'est ce que j'allais dire.
On y est autour des murs quand on est arrivé, il continuait de s'écrouler. On est arrivé sur le site Pouplier en 2010. L'asso s'est créé en 2006. Moi, je suis arrivé en 2008 et on a trouvé avec une collègue quand on était sur la création du chantier d'insertion. On a trouvé ce jardin avec Geneviève qui était encore vivante à l'époque et qui nous a accueillis, même si c'était pas facile pour elle de laisser son lieu, mais on y est allé à petits pas et puis on est arrivé à avoir des beaux moments avec elle. On a fait des fêtes, on a même accueilli l'ancien maire de Montreuil, Jean-Pierre Brard, dans une porte ouverte avec plein de dahlias. Enfin, c'était un beau moment pour elle. Et puis voilà, on l'a suivie jusqu'à la fin de sa vie. Et puis heureusement, la famille nous a permis de continuer. La ville a racheté la parcelle, et donc on continue à entretenir ce lieu, à le valoriser, à mettre en place plein d'activités sur le site.
Et de rappeler l'histoire de l'agriculture urbaine.
L'histoire des murs, on a eu 60 à 80 fruitiers encore sur les murs. On fait des ateliers de taille et de greffe fruitière avec Thierry Régnier, qui est un spécialiste de la question. On a une mare aussi, on a créé une mare parce qu'il n'y avait pas d'eau sur le site, et c'est important pour toute la faune, la flore, et les abeilles, tous les insectes. On crée des nichoirs aussi, plein de nichoirs, tout un tas d'insectes aussi, avec les enfants également.
Je reviens sur juste l'histoire des murs à pêche. Alors, voilà, pourquoi nous, ça s'appelle EMS, Radio EMS, M apostrophe S, ça veut dire plusieurs M, et dans un des M, c'est murs à pêche. Et à chaque fois qu'on me pose la question, moi je dis tout le temps, murs à pêche, parce qu'on est né à Montreuil, que les murs à pêche, c'est Montreuil, et que c'est unique en France.
Ouais.
Voilà. Et donc ça, je rappelle toujours ça. Donc, alors comme on nous écoute comme on est sur Internet, on nous écoute au-delà de Montreuil, au-delà de l'Est parisien, et que en plus on peut nous écouter en replay sur notre plateforme de podcast. Les gens, si vous nous écoutez depuis tout à l'heure, Frédéric parle des murs à pêche. Renseignez-vous sur les murs à pêche pour voir ce que c'était. Et puis à l'occasion, si vous venez à Montreuil, venez voir le sens de l'humus. Et on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, comment on fait pour vous contacter, comment on fait pour venir.
Le festival qui arrive bientôt.
Voilà, le festival des murs à pêche, où nous serons d'ailleurs aussi. Normalement, on aura quelques reporters et reportrices qui vont venir faire pas mal de choses. Allez, on continue sur le fonctionnement. On va aller un peu sur le fonctionnement des associations, hein, de vos associations. On a vu au fur et à mesure, nous, des émissions, qu'il y a des fonctionnements différents. Alors, il y a toujours les bureaux, les conseils d'administration. Donc, la SAUGE, comment ça fonctionne, l'association La SAUGE?
Oui, du coup, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a eu l'idée de qu'on se salarise. Du coup, les personnes qui font tourner l'association, qui sont dans le rouage de l'association, sont des personnes salariées. Et c'est aussi des salariés qui prennent les décisions. Du coup, on s'organise, on est organisé par pôle, donc pôle d'animation, d'exploitation, d'événementiel, mais aussi à l'intérieur de l'association, on s'est réparti par groupe de travail qui va réfléchir sur des sujets fondamentaux de l'association, que ce soit la rémunération, un groupe de solutions au cas où il y a des problèmes, sur un peu les objectifs de la SAUGE dans 10 ans, différents groupes de travail, même un groupe de travail de temps collectif pour que les personnes se mobilisent pour organiser des temps collectifs, nos temps de séminaires, des choses comme ça, pour que du coup les décisions soient prises par les salariés, pour les salariés, pour faire
l'association. Alors un peu, j'allais dire un peu comme une SCOPE, la SCOPE c'est pas que ça, mais ouais, c'est bien, c'est vous qui prenez les décisions pour vous-même, enfin voilà, collectivement, c'est pas mal.
C'est ça.
Il n'y a pas de patron, c'est vous les patrons.
Il y a toujours des personnes plus... Enfin, non, il y a quand même une décision horizontale, et après il y a des personnes qui sont plus longtemps, bah, du coup qui sont plus légitimes à avoir leur mot à dire, qui nous donnent un peu le cap de l'association, mais...
Oui, c'est plus parce qu'ils ont de l'expérience, voilà. Mais c'est pas eux qui décident.
Non.
D'accord. Comment ça marche, le sens de l'humus, Frédéric ?
Ben, à la base, il y a cette volonté-là aussi, qu'on a un peu plus théorisé sur le volet autogestion, donc avec un conseil collégial, donc composé de bénévoles, un bureau. On est obligé d'avoir un bureau et puis des salariés. Alors nous aussi, enfin nous sommes une sorte de fonctionnement par pôle, mais l'idée c'est qu'on privilégie des décisions collectives, donc avec justement le mot, tout le monde a son mot à dire, bénévoles et salariés, mais effectivement les salariés, comme ils sont sur le terrain, ça compte quand même pas mal leur parole, avec un salaire égal aussi, on a tous le même salaire. Ça aussi, on y tient.
Quelle que soit la responsabilité.
D'accord. Ouais, depuis, au début, il y avait un tout petit décalage, et puis on l'a résorbé. Après, on réfléchit. Peut-être, c'est pas. Voilà, on réfléchit à des évolutions. Mais globalement, l'idée, c'est bon. Voilà, on s'investit tous à une hauteur particulière. Enfin. Et on considère qu'on a droit à une rémunération égale.
Voilà. D'accord. Il y a surtout un engagement, quoi. Enfin, comme l'a dit Joss aussi, on le sent aussi. Il y a d'abord un engagement à être dans cette association. Voilà, vous en êtes salarié, mais d'abord il y a un engagement profond, quoi.
Oui, il y a un engagement important depuis longtemps. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'y suis. Ça aussi, effectivement, l'idée c'est de faire bouger les choses, c'est de le revendiquer, cette question d'auto-organisation, que ça se développe, qu'on puisse, même si c'est pas simple, même si on a eu des problèmes récemment aussi avec ça, c'est pas évident de laisser le pouvoir un peu vacant. Et il y a des gens qui ont des fois très envie de le prendre. Donc c'est vraiment une question, mais c'est une question qui doit se poser dans les associations qui ont envie de partager le pouvoir, hein, et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de domination particulière, si ce n'est effectivement des gens qui sont un peu plus connaisseurs sur certains sujets, qui sont plus référents, qu'on respecte ou qui ont une certaine autorité parce qu'ils ont un peu d'expérience, mais ça s'arrête là. Pour nous, c'est assez fondamental de pouvoir effectivement avoir cette avoir cette ce, ce ce type de fonctionnement qui s'efforce de faire des petits, qui aimerait faire des petits, même si en milieu capitaliste, c'est très compliqué.
Oui, c'est difficile de lutter contre, mais voilà. En même temps, c'est pas tellement mieux, hein, le fonctionnement capitaliste, on est d'accord?
Ah bah non, hein, non.
Parce que tout à l'heure, tu disais, oui, c'est peut-être pas super, il y a peut-être des problématiques qu'on peut avoir, mais bon...
Ah bah non, mais évidemment, bah, si nous, on le revendique. Hein, voilà. Même si c'est compliqué, même si c'est pas non plus simple, hein, c'est plus facile d'avoir un chef qui décide pour les autres, quoi, que d'avoir des gens qui essayent de s'organiser ensemble avec des désaccords, avec des conflits, avec voilà, et qu'il faut résoudre. Pour ça que effectivement des groupes de travail ou des temps où on peut résoudre les petits problèmes, c'est super important, et réfléchir en permanence au mode d'organisation collective.
Réfléchir, discuter, échanger.
Ouais.
Bah, c'est des beaux fonctionnements.
Et avoir des tiers aussi qui peuvent regarder ça aussi, parce que on a eu un retour sur un fonctionnement un peu difficile à un moment donné, et donc là vraiment la question du tiers, elle est super importante, parce qu'il faut pas qu'on soit laissé seul à décider.
Quelqu'un qui vient avec un œil extérieur,
des gens qui sont extérieurs et qui peuvent dire bah là écoutez, vous déconnez, il faut que mais avec les mêmes valeurs qui portent aussi le projet de l'asso, quoi.
D'accord. Vous avez eu ça aussi, ou est-ce que vous avez ça des fois, des experts, des gens qui viennent avec un œil extérieur vous accompagner sur certains sujets?
Oui, par exemple pour les groupes de travail, on réfléchit et quand on doit prendre des décisions, on doit acter des choses. On se dit, est-ce que c'est une décision qui doit être prise en interne, ou est-ce qu'on va aller voir déjà qu'est-ce qui se fait ailleurs pour un peu s'inspirer, et aussi d'aller parler avec des professionnels auxquels c'est leur sujet pour pouvoir donner des éléments de réponse.
D'accord. Alors, on va continuer sur le fonctionnement. Et puis, alors là, le nerf de la guerre, les financements. Mmh. Voilà, financièrement, comment ça fonctionne, la SOGE, JOS, voilà, comment ça... est-ce que, voilà, donc les cotisations, on parlait des adhérents tout à l'heure, est-ce qu'il y a des dons, des subventions, voilà, les locaux, du coup, là, c'est plutôt les terrains, comment c'est financé tout ça?
Alors, du coup, c'est financé par plusieurs façons, évidemment. Mmh. Une bonne partie, c'est quand même des financements publics.
Ouais.
Que ce soit des appels à projets, des subventions, des choses comme ça pour nos différents programmes. Après, il y a évidemment du coup les adhésions des personnes qui adhèrent à notre association. Nous, on a une production, du coup, on vend des plants, et aussi on a une ferme urbaine qui produit des graines qu'on va commencer à commercialiser cette année. Du coup, il y a une dimension de pouvoir vendre ce qu'on produit.
Ouais.
Et après, on a tout un volet aussi événementiel où les personnes y viennent surtout les week-ends. Où on fait des événements, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, mais il y a le bar, les gens ils peuvent consommer, du coup ça permet de financer une partie des projets. Et après, pour toutes nos animations qu'on fait, du coup on a des financements pour faire ces animations, et après en fonction du public, en fonction de leur budget, on va pouvoir proposer des tarifs préférentiels pour pouvoir du coup financer.
D'accord. Vous parlez d'appel à projet, c'est quel type d'appel à projet?
Du coup, des appels à projet de la ville, du département, des Seine-Saint-Denis. On a aussi on a eu des dons des mécènes. Donc, pour revenir un peu sur le groupe de travail, on a un groupe de travail qui va étudier les propositions de mécènes pour voir si c'est en cohérence avec nos valeurs et quelles sont les contreparties, des choses comme ça. Et voilà, du coup, on a aussi des mécènes qui vont financer certains de nos programmes.
Donc, une entreprise, une grosse entreprise de...
Ça peut l'être.
Agroalimentation.
Mais du coup, c'est des décisions à prendre en compte entre qu'est-ce que ça permet de financer, qu'est-ce que ça rejette comme image à nous, et c'est des discussions. Mais du coup,
bien sûr.
On a vu que ça s'est devenu un nœud dans l'association, avec des débats qui peuvent être assez forts entre les différentes personnes dans l'association. Et l'idée, du coup, c'était de créer un groupe de travail pour pouvoir réfléchir en profondeur sur ce sujet, parler avec des personnes de l'extérieur et fixer une sorte de cahier de route.
D'accord. Alors, Frédéric, financièrement, ça fonctionne comment, le sens de l'humus, les subventions, cotisations?
Ouais, il y a un gros volet subventions avec ville, département, un peu moins la région depuis l'arrivée de Pécresse, enfin quasiment plus d'ailleurs.
On se demande pourquoi.
On se demande pourquoi. Et puis des prestations aussi. Donc création avec des bailleurs sociaux, création de jardins en pied d'immeuble. Et puis pas mal de prestations d'écoles aussi qui veulent qu'on intervienne sur certains domaines, des collectifs d'habitants qui veulent qu'on plante des choses, enfin, qui se mettent d'accord, des amicales de locataires qui se mettent d'accord pour qu'on plante des choses ou il y a donc pas mal de prestations notamment sur la question de jardinage en pied d'immeuble. Et d'éducation aussi pour certains. Et
ouais, puis, ça se fait de plus en plus, ça, en pied d'immeuble,
oui,
les jardins
oui,
en pied
oui,
d'immeuble.
Oui, ouais. oui. J'y étais encore hier à Noisy-le-Sec. Mm-hmm. Il y a vraiment une volonté de développer au maximum avec. Bon, bien sûr, il y a toujours le côté un peu greenwashing, mais il y a quand même une volonté de faire en sorte que les espaces verts qu'il y a soient utilisés au mieux pour des bénéfices collectifs, pour du lien, pour faire du lien, pour mettre en place des choses qui profitent aux habitants. Et
ouais, qui est pas juste une pelouse en bas du bâtiment.
Par exemple, voilà, ouais, même si ça peut être sympa aussi, mais effectivement, il y a Montreuil, là, on est à Cité Paul Doumer avec CDC Habitat Social, et on va reprendre un peu les parcelles avec les gens, et il y a une dynamique, les gens ils se réunissent, ils font des fêtes, ils font des pots, et c'est vivant, il y a les enfants qui sont là, c'est très chouette quoi, enfin ça, dans un petit lieu, on recrée des espaces collectifs où les gens se rencontrent, font des choses ensemble.
Recrée de la vie quoi, en fait.
Ouais. Et c'est vrai que la question de la vie, elle est centrale dans la question de l'agriculture urbaine. C'est mettre en place des lieux de vie quoi, aussi bien pour la nature entre guillemets, enfin pour le vivant plutôt, et puis le vivant non humain et le vivant humain. Voilà.
Ouais, donc c'est aussi recréer de la vie chez les humains, recréer du contact, du bonheur, de la joie.
Exactement.
C'est pas juste de l'écologie.
C'est de l'écologie au sens général, quoi. Enfin, voilà. C'est aussi bien pour tout le vivant, quoi.
Ouais, c'est un beau projet.
Merci.
Donc voilà, donc financement, on a vu, c'est beaucoup de subventions, mais en même temps, vous faites beaucoup d'activités d'intérêt général, quelque part.
Oui, il y a un petit peu de dons aussi.
C'est l'une et l'autre, que ce soit le sens de l'humus et la sauge, quelque part, il y a un peu une mission de service public, quoi.
Ouais.
Voilà, donc... normal qu'il y ait des financements publics.
Ah bah oui, bien sûr. On fait même des activités. Pour nous, le compostage est même un volet un peu de délégation de services publics.
Ouais.
Ça peut avoir un peu ce côté-là. Même au niveau de l'éducation, quand on répond à une demande des villes, c'est des choses qu'on vient en support de l'éducation nationale quelque part,
c'est un complément,
c'est normal qu'on soit financé pour ça.
Oui, bien sûr. Je suis entièrement d'accord. Alors il nous reste encore un petit peu de temps, mais comme on a une deuxième pause musicale bientôt, il y a une petite question, c'était sur le profil des bénévoles, mais on en a parlé déjà beaucoup tout à l'heure. sur vos bénévoles. Moi, je voudrais revenir sur donc la question de l'agriculture urbaine. Donc, vous faites ça, mais comment vous agissez pour en faire plus la promotion au-delà de vos activités ? Déjà, vos activités, ça en fait la promotion. Donc, c'est surtout, est-ce que vous avez des liens avec d'autres associations, d'autres villes, d'autres départements ? Est-ce qu'il y a des échanges, des réflexions sur, par exemple, sur le territoire d'Est-Ensemble, sur le département de Seine-Saint-Denis, voire au-delà, sur la région ? Est-ce qu'il y a des réflexions sur l'agriculture urbaine ?
Sur un coup de tête comme ça, ce que je pourrais dire, ce que nous on est en train de bosser dessus en ce moment, c'est un partenariat avec l'association Alage, où on a un programme pour former des jeunes dans les métiers de l'agriculture urbaine, avec l'objectif que du coup ils puissent contribuer à l'essor de l'agriculture urbaine une fois qu'ils sont formés.
Ah, c'est pas mal ça.
Ouais, super chouette. C'est un projet qui commence cette année. du coup, avec l'association Alage qui est sur l'îlot de Saint-Denis.
D'accord, sur l'île Saint-Denis.
L'île Saint-Denis.
Et il y a une capacité d'accueil d'élèves, de personnes qui vont être formées à ça.
Je pourrais pas dire les chiffres, vu que c'est un peu l'année test. Mais l'idée, c'est qu'on puisse les former. Et après, il y a aussi l'objectif que, du coup, dans la culture urbaine, on puisse proposer des métiers, souvent des travails d'été. Par exemple, nous, on a une pépinière, on a une production de semences. On est en recherche de personnes qu'on peut payer. Même si on compte beaucoup sur nos bénévoles, il y a aussi l'idée, comme nous, d'être salarié, de pouvoir créer de l'emploi dans la culture urbaine. Et du coup, ce programme, c'est aussi à destination de ces jeunes-là qui cherchent... Nous, on a un peu l'idée de, au lieu d'aller travailler à McDo l'été,
d'aller travailler dans une ferme urbaine.
Voilà.
D'accord. Voilà. Bonne idée. C'est pas bête. Frédéric, voilà, est-ce qu'il y a un travail avec d'autres associations, d'autres villes?
Oui, alors là, bientôt, il va y avoir, je ne sais pas les dates en tête, mais il y a les 48 heures de l'agriculture urbaine avec un réseau qui s'appelle Refor, je crois. Et j'ai pas développé de l'acronyme, mais ça se trouve sur Internet. Donc ça, c'est un volet important sur le développement de ça. Après, on est en lien plus ou moins étroit. On est en lien avec toutes les associations des murs à pêche, notamment, ce qui est pas mal aussi parce que ça fait une force. Il y a la Fédération des murs à pêche qui porte les associations, les projets qui sont pas que de l'agriculture urbaine, mais qui sont autour de ces murs et de toutes les valeurs qu'ils portent. Enfin, en tous les cas, à l'heure actuelle, parce qu'avant c'était différent, c'était plutôt productif et voire assez dur. Mais actuellement, il y a plutôt un projet alternatif qui est porté sur l'organisation collective, sur le fait que les lieux de nature, ils profitent à tous, qu'on protège les arbres, qu'on protège, avec les Jeux Olympiques qui arrivent, il y a beaucoup de destruction, beaucoup de les jardins des vertus à Aubervilliers qu'ont souffert, plein de choses comme ça. Et l'idée, c'est aussi de porter ça avec d'autres structures plus un volet, le volet comme je disais, le volet insertion entre guillemets, comme on est très actif sur cette dimension-là, toutes les structures avec lesquelles on travaille, on permet à la fois à ces structures d'avoir un lieu où les personnes qu'ils accueillent peuvent jardiner, bénéficier d'un lieu de nature, et ça c'est important aussi parce qu'il faut oublier personne sur la route, tellement il y en a des gens qui sont oubliés, autant qu'on peut aider, quoi.
D'accord. Eh ben, on arrive à notre deuxième pause musicale et c'est celle du sens de l'humus.
Ouais.
Donc c'est Dit Papa de Zoufris
Maracas.
Maracas.
Pas grave.
Donc Dit Papa. Donc là, il y a vraiment un message très très clair dans ce titre. Donc pourquoi ce titre?
Ben on peut peut-être écouter et puis on en parle après.
Ouais, voilà, c'est clair. Allez, Dit Papa de Zoufris Maracas.
Radio Ems, l'essentiel de la musique.
Dis papa, t'as collé toi les poissons?
Ah bien sûr, j'ai collé les poissons, enfin.
Elle est comment?
Eh bien, tu vois la mer?
La mer, le grand truc tout noir devant nous qui fait l'air moumou.
Exactement, aussi. Eh bien, cette mer, autrefois, était bleue. Et dedans, il y avait tout un tas de bestioles, à peu près grandes comme ça, couvertes d'écailles, qu'on appelait les poissons.
Ah ah. Dis, papa, t'as connu, toi, les arbres?
Ah bien, connu les arbres.
Et t'es comment?
Eh bien, tu vois ce pylône?
Hein?
Eh bien, c'était à peu près grand comme ça... Tout marron, avec en haut tout un tas de trucs verts, un peu comme du papier. Ah non, t'as pas connu le papier, toi. Enfin, on appelait ça des feuilles.
Ouais, bref. Dis, papa, t'as connu, toi, les animaux?
Ah, c'est là qu'a bien connu les animaux, c'est ton père, mon petit. Les dindons, les outardes, les gnous, les girafes, les tempires, les ornithorynques, les phacochères.
Et les insectes?
Les insectes, les phasmes, les araignées, les libellules.
C'est passé où, tout ça, papa?
Mon petit, c'est passé où? C'est passé que ça s'est mal passé, mon petit, qu'on les a bouffés. Enfin, on les a mangés.
Vous avez tout mangé?
Bah oui.
Vous avez pas essayé pour les autres?
Bah, on n'a pas pensé, mon petit. C'est-à-dire que la télé nous disait qu'il n'y en aura plus en 2048. Donc, si tu veux, comme il n'y en a plus en avoir, bah, tout le monde en voulait. Comme tout le monde en voulait, tout le monde en a eu. Et puis, comme tout le monde en a eu et que tout le monde en avait.
Il n'y en a plus.
Exactement.
Dis, papa, t'as connu, toi, quand il faisait pas 60 degrés?
Ah, bien connu. Des fois, on était là comme ça, on se baladait, on avait froid.
Froid?
Oui, non, laissons. Et
les oiseaux?
Ah, les oiseaux. Tu vois le ciel?
Le ciel, le grand truc tout gris, au-dessus de nous, ils sont pas bons, on comprend rien?
Exactement, mon petit. Eh bien, ce ciel, autrefois, était d'un bleu, tandis que le Mastora passe planer au-dessus de nous.
Non, mais attends. Là, t'es en train de me dire qu'avant, il y a des poissons qui nageaient dans une mer qui était bleue alors qu'elle est noire, qu'il y a des arbres avec des trucs verts, des tempires, des fois comme un cher qui faisait froid. Tu serais pas en train de te foutre de moi, non? Et l'eau, t'as connu l'eau?
Calme-toi, mon petit, calme-toi. J'ai connu les fleuves, les rivières, plein d'eau d'un coup.
Et vous avez tout?
Bah oui. C'est-à-dire, on le pensait pas, mon petit. Enfin, on se disait, on sera plus là. Et puis, bah, depuis qu'on meurt plus, nous, on voit bien le nez pour nous emmerder. Tiens. Mais c'est pas de ta faute, tout ça, mon petit, hein. Faut pas être triste, hein.
Ah, c'est pas triste, hein. Je suis fâché, bouffeur d'oiseaux, assassin de poissons, tueur de merde, découpeur d'arbres, couvert d'insectes.
Que tu vas parler sur un autre temps, si je débranche ton lit, il descendra là.
Et les hommes, t'as connu les hommes?
Et donc, ben voilà, c'était Di Papa de Zoufris Maraca qui a été choisi par Le Sens de l'Humus. Ben, pourquoi ce titre, hein, du coup, Frédéric?
Bah ça parle de lui-même. On est dans des crises, enfin pas des crises, on est dans des problématiques graves de climat et de chute de la biodiversité colossale. Voilà, il faut agir, il faut réagir, parce que c'est les générations futures qui vont en pâtir, et c'est pas sûr qu'elles vivent au travers d'intelligence artificielle, comme dans la chanson.
C'est pas sûr. C'est
donc
clair.
Voilà, puis il y a déjà des gens qui meurent de tout ça, plus les crises politiques et tout ça, donc ça serait bien de se réveiller un petit peu.
Très bien. Ben c'est un beau message, et en tout cas on l'a bien entendu tout le long de l'émission. Donc voilà, on arrive pratiquement à la fin de notre émission. Donc merci Joss, hein, de la Sauge à Aubervilliers, ainsi qu'à toi Frédéric du Sens de l'Humus, donc d'avoir participé à notre 7e émission. On fait un petit coucou à notre camarade Caroline qui ne peut pas être là. Mais alors, avant de nous quitter, donc une toute dernière question. Donc si dans les auditeurs, les auditrices, il y a des gens qui ont envie d'être bénévoles dans vos associations, des gens qui ont envie de participer à vos activités ou connaître vos activités, comment on fait voilà, pour vous retrouver?
Ben voilà, on a un site internet. Où il y a tout marqué. On a un Facebook aussi depuis peu. Je suis pas trop fan, mais voilà. Instagram aussi.
Le sens de l'humus.
Le sens de l'humus et vous trouverez. Il n'y a pas de souci.
D'accord. Pour la Sauge.
Alors du coup, pareil, on a un site internet, Instagram, Facebook, tout ça. Et après, si vous voulez nous rejoindre, du coup, on a des créneaux bénévoles qui sont ouverts toutes les semaines. Donc à la Prairie du Canal, à Bobigny, c'est tous les jeudis et vendredis. Vous pouvez venir le matin ou l'après-midi, rester manger avec nous le midi. Sur notre ferme à Terre-Terre à Aubervilliers, c'est tous les jeudis. Pareil, le matin et l'après-midi, rester manger avec nous. C'est super sympa au soleil. Et après, on a une ferme à Saint-Denis qui s'appelle la Pleine Terre, où il y a une autre dimension. On aimerait des gens qui s'engagent sur l'année pour assister dans la production alimentaire.
D'accord. Eh ben, très bien. Merci, messieurs. Donc, pour terminer, un grand merci à David pour la régie. Encore un petit coucou à Caroline qui nous a manqué ce soir. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été encore nombreuses et nombreux à l'écoute. On se retrouve pour la prochaine fois. Le jeudi 11 avril à 19h, vous pouvez écouter notre émission en replay sur notre plateforme de podcast. N'oubliez pas de nous laisser des messages sur nos comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X. Bonne soirée à toutes et tous. À bientôt sur Radio Ems. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a night to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's